Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Écoutez, moi je crois à la direction divine, mais quand juste avant de prêcher ce texte, on entend une prophétie qui rappelle exactement ce texte, je crois que Dieu veut parler. À plusieurs, à moi le premier, mais Dieu veut parler. Afin que nous fassions attention à la manière dont nous écoutons la parole de Dieu. Ce texte est clair, il ne peut pas être plus clair. Il y a deux façons d'écouter la parole de Dieu. Une façon qui consiste à être d'une légèreté totale, ça veut dire qu'après la prédication, ou quand vous serez tout à l'heure à l'angle de la rue, vous aurez déjà tout oublié. Ou alors, une attitude de cœur profonde qui fait que ce que vous entendez, vous décidez de le réfléchir. Comme on l'a vu dimanche, considérez la volonté de Dieu, c'est-à-dire, mais réfléchissez à ce qu'est vraiment la volonté du Seigneur. Ce texte, précédé de la prophétie, ne peut que m'encourager et nous encourager à être sérieux par rapport à la façon dont Dieu veut nous parler. Nous allons prendre la deuxième lecture, c'est dans Matthieu chapitre 6. Vous connaissez ce texte que nous avons abordé dimanche matin, mardi soir. Ce matin, nous allons aborder sur le pardon, Matthieu chapitre 6. On va relire le Notre Père quand même, en entier. Souvenez-vous qu'au verset 4, 5, 6, 7, Dieu nous demande de ne pas ressembler aux païens, Dieu nous demande de ne pas nous comporter comme des hypocrites. Ça arrive que des chrétiens se comportent comme des païens, on l'a entendu, que des chrétiens se comportent comme des hypocrites. Et ça ne plaît pas du tout à Dieu parce que ça lui est impossible d'agir. Le Notre Père dit ceci, Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et au verset 14 et au verset 15, le Seigneur fait un commentaire sur un des enseignements du Notre Père. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez le seul commentaire que Jésus fait sur le Notre Père. C'est un commentaire sur le pardon, dont la question que nous pouvons nous poser pour introduire ce moment, cette question est celle-ci, comment vivons-nous le pardon? Comment pardonnons-nous? Car si vous êtes d'accord avec moi, le petit commentaire que Jésus fait sur le pardon nous montre que quelqu'un qui ne pardonne pas ne peut pas savoir où il en est de sa communion avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas possible. Vous avez lu, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Donc rien que cette parole est la preuve que quelqu'un qui ne veut pas pardonner ne peut pas savoir où il en est de sa communion avec Dieu. Alors il peut faire semblant d'être en communion avec Dieu, vous savez, y chanter, dire Alléluia, tout ça c'est possible à tout le monde. Même un pécheur peut chanter des cantiques, même un pécheur peut aller à l'église, même un pécheur peut dire Alléluia, même un pécheur peut prendre la Sainte Cène, je veux dire, ça laisse croire, mais il n'y a que Dieu qui sait où nous en sommes vraiment dans notre communion avec lui. Il n'y a que Dieu qui sait. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas parce que quelqu'un prêche qu'il a une communion extraordinaire avec Dieu, parce qu'on prend des heures pour préparer une prédication. Bon, c'est sûr que la façon dont le culte est introduit, cette prophétie juste avant la lecture, montre que c'est la volonté de Dieu. Quoique, une prophétie peut être complètement à l'opposé, un cantique peut ne pas être du tout, Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre, je dis au meneur de chant, ce n'est pas parce que les cantiques ne sont pas en accord avec la prédication qu'ils ne sont pas inspirés.
parce que je crois que Dieu est souverain, il ne faut pas attendre. Un jour, un meneur de chant m'a dit, ah, monsieur Gauche, les chants n'avaient rien à voir avec la prédication. Je dis, mais c'est pas grave. Vous voyez, il ne faut pas non plus devenir, parce que je crois que Dieu peut parler par les chants, un thème tout à fait différent, et Dieu peut parler par la prédication d'une manière différente également. Nous avons dans la parole de Dieu énormément d'enseignements sur la prière, énormément d'enseignements sur le pardon. Par exemple, comment nous devons nous comporter dans le couple, où nous avons lu mardi, Marie, aimez vos femmes afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est important que dans un couple, nous nous aimions. Est-ce que c'est important? Vous voulez vous marier, les jeunes, vous voulez vous marier? Ceux qui sont mariés, ceux qui allez vous marier, hein, etc. C'est quelque chose d'important, parce que quand même, vous êtes, je ne vous apprends rien, et là, j'aimerais vous l'apprendre, mais que de foyers chrétiens ont été brisés. D'églises ont été brisées, de vies ont été brisées, parce que on a choisi de ne pas pardonner. Je ne vous apprends rien. Nous avons appris que dans des églises, il y avait eu des divisions sévères, réelles. Pourquoi ? Pas parce qu'il y avait eu un problème, parce que dans toutes les églises, il y a des problèmes. C'est comme dans les familles, comme dans tous les couples. Dans tous les couples, est-ce qu'il y a des problèmes ? Bien sûr. Si vous êtes un couple, si vous n'avez jamais eu de problème, venez me voir. Votre cas m'intéresse. Mais vous ne devez pas vivre dans la même maison. Mais moi, je vais vous dire une chose, il y a des problèmes. Mais alors, parce qu'il ne faut pas, diaboliser tout et aggraver tout. Mais quand on voit une église qui est divisée parce que les anciens sont en conflit avec d'autres anciens, parce que les pasteurs sont en conflit avec les anciens, etc., ce sont des choses qui prouvent qu'on ne vit plus l'évangile. Ça, c'est sûr. C'est pas la peine de chercher des grosses explications. C'est la preuve qu'on ne vit pas l'évangile. C'est terrible, parce que quand même, c'est à la portée de tous. Un enfant sait demander pardon. Un meneur de chant qui arrive en retard, de suite, va demander pardon lorsqu'il commence à chanter. Parce que c'est normal. On en reparlera. Hein? Le pardon, c'est quelque chose de vital. Est-ce que c'est vital, le pardon? C'est quelque chose de vital. Si vous ne pardonnez pas, tous les problèmes qui sont liés à cela devront être réglés devant Dieu. Si vous pardonnez, tout est effacé. C'est écrit. Écoutez, j'espère que vous faites confiance à ce que je vous dis, car ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. À partir du moment où on demande pardon, le problème, il est réglé. Il est effacé. Mais tout ce qui n'est pas pardonné, après notre conversion, parce qu'après notre conversion, tout est effacé, tout ce qui n'est pas pardonné devra être expliqué, jugé, réglé. Donc ça vaut la peine de régler tout à la base avant. Le pardon, c'est quelque chose de vital. Moi, je suis quand même peiné, je vous le dis, d'apprendre que dans un couple chrétien, j'entends, à moi, mon mari, je ne lui demande pas pardon. C'est comme ça, moi, on ne m'a pas appris à demander pardon, donc c'est comme ça. Moi, je suis droit. En plus, ça n'a rien à voir avec la droiture, ça. Ça a plus à voir avec la bêtise que la droiture. Et l'entêtement, en tous les cas, l'entêtement que la droiture. Mais on l'a entendu, je l'ai entendu, ici. Et vous comprenez bien que ça ne me fait pas rire parce que je sais comment va terminer le couple. Et même si on prie, parce qu'on peut prier, et je crois que Dieu éclaire. Est-ce que vous croyez que Dieu nous éclaire? Mais bien sûr qu'il nous éclaire et que Dieu nous parle. Comme ce matin, quelqu'un d'intelligent, en plus, on l'a chanté dans le troisième chant, la prophétie. On ne se rend pas compte combien l'Esprit de Dieu veut nous parler. Alors, n'accablons pas l'Église, nous n'accablons pas Dieu de ce que l'Esprit de Dieu n'agit pas. Soyons sérieux, car le vrai pardon est une bénédiction. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le vrai pardon, c'est une bénédiction. Parce qu'il y a le vrai pardon, et il y a le pardon du bout des lèvres. Le pardon, 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 pardon. Moi, ça m'arrive, pardon, pardon, pardon. Il y a des gens qui... Les gens, on les pardonne. Le problème n'est pas là. Mais c'est que Dieu demande que l'on pardonne de tout son cœur. C'est ce qui est écrit dans sa parole. Le Notre Père, combien le récite? Vous allez me dire, mais il n'y a que les catholiques qui récitent le Notre Père. Ah bon? Vous croyez qu'il n'y a que les catholiques? Parce qu'on ne récite pas le Notre Père, vous ne croyez pas que nous pouvons être amenés à réciter des prières, nous aussi? Soyons honnêtes, n'allons pas tomber dans cet excès. Oui, les catholiques récitent des prières. Mais moi, je peux vous dire que les pentecôtistes récitent des prières. Quand on entend des fois des... Alors, ne jugeons pas. Mais quand c'est toujours la même prière, on peut en déduire que c'est une prière récitée. Ne jugeons pas quand même. Moi, j'ai connu une sœur, Albi, qui faisait toujours la même prière. Toujours, quand elle priait, on savait ce qu'elle allait dire. Mais chaque fois, elle la faisait de tout son cœur. Vous voyez comme quoi? On n'est pas habilité pour juger, franchement. Et c'est pour ça que même si vous faites toujours la même prière, vous inquiétez pas, vous n'avez pas de juge en face de vous, heureusement. En tous les cas, en moi, il n'y en a pas de juge, si vous êtes chrétien. Mais mes frères et sœurs, je crois qu'il est important que nous reconsidérions certaines choses par rapport au pardon. Donc, faites attention à la façon dont nous écoutons la parole. Prenez garde à la façon dont nous écoutons. Parce que beaucoup de chrétiens ne font aucun progrès pour la simple et unique raison, ils écoutent la parole, ils s'autorisent à peut-être à faire en sorte qu'elle soit biblique. Ça fait qu'il y a des chrétiens qui sont presque fiers parce qu'ils se disent, voilà, moi je suis capable dans une prédication de dire si c'est une chose est biblique ou pas biblique. C'est bien, mais si vous n'obéissez pas, je veux dire, ça ne fait pas grand-chose quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai connu un gars comme ça. Il venait me voir, c'était un pasteur. Quand j'ai appris ce qu'il faisait après, c'est un pasteur qui me dit, monsieur Gaud, je viens vous écouter, je vous entends à la radio de temps en temps, mais je viens vous écouter pour voir si tout ce que vous faites est biblique. Si tout ce que vous dites est biblique. Je dis, ben, c'est bien, faites-le. Si c'est un problème, reprenez-moi, ça ne me gêne pas. 3 mois après, il était en prison. Ouais, pour des trucs graves. Et je vous dis ça, parce que ce n'est pas parce qu'on examine la parole pour savoir si ce que le pasteur dit qu'on la met en pratique soi-même. Le pardon, c'est quelque chose de sérieux. Beaucoup de chrétiens ne font pas de progrès. Jésus a dit, vous connaissez ce qu'a dit Jésus, vous êtes heureux si vous savez ces choses. Mais la phrase ne s'arrête pas là. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Si la parole s'arrêtait là, tous les chrétiens seraient heureux. Mais le problème, c'est que Jésus a dit, pourvu que vous les mettiez en pratique. C'est ça, construire sur le sable. C'est-à-dire que je suis d'accord, mais je ne le mets pas en pratique. Et quand on voit des églises divisées à cause du manque de pardon, vous comprenez bien que ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Quand on voit des couples divisés, et c'est pour ça que moi je dis aux jeunes, mais si vous êtes égoïste, mais ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Parce que les gens qui sont égoïstes, souvent ne veulent pas pardonner. Et ainsi de suite. Mais c'est une affaire sévère. Moi, combien de couples m'ont dit, mais monsieur Gaud, vous le dites régulièrement de l'estrade. Combien de gens viennent me voir? Ah, mais monsieur Gaud, vous l'avez dit 50 fois. Mais on n'a pas fait attention. Eh oui, parce qu'on n'écoute pas. On croit que c'est pour les autres. C'est quelque chose de sérieux. Alors, un des problèmes graves, des problèmes qui existent aujourd'hui dans toutes les églises, alors je m'en rends compte de plus en plus au début de la conversion, c'est que beaucoup de chrétiens vivent leur vie spirituelle d'une manière émotionnelle et non pas d'une manière spirituelle. Je disais hier à quelqu'un, quand je me suis converti, on m'a donné un bouquin, que c'est un gros steak, c'est Les réveils religieux de Finet. Il y a des choses à expliquer dans ce livre. Mais à un moment donné, M. Finet, qui a été un revivaliste quand même, bon, un grand revivaliste, il dit, mais moi sur le coup je savais que c'était vrai, venant de lui je savais que c'était vrai, il dit, je ne suis intéressé que par la volonté de l'homme. Il le dit d'une façon péremptoire, vraiment, dans une de ses prédications, je ne suis intéressé que par la volonté de l'homme. Bon, je sais que c'est vrai, mais je comprends ce qu'il a voulu dire maintenant. C'est que beaucoup de chrétiens vivent leur vie spirituelle d'une manière émotionnelle, sentimentale, pour peu que la prédication aille dans ce sens, où on amène les gens à faire les choses d'une manière sentimentale. Je m'explique. Si quelqu'un est en conflit avec un autre, vous êtes en conflit avec un meneur de champ parce qu'il arrive en retard, par exemple, vous êtes en conflit. Et vous lui dites, bon, écoute, il faut demander pardon. Oh, ne vous inquiétez pas. Si vous dites à quelqu'un, si un pasteur dit à l'église, écoutez, ou un chrétien, écoute, tu es en conflit avec ta belle-mère, tu es en conflit avec ton ami. Bon, mais quand tu le sentiras, quand tu te sentiras prêt, quand tu sentiras prêt, écoute, va la voir. C'est ça la sentimentalité. Ça ne produit rien du tout. Et beaucoup de prédications aujourd'hui, peut-être vous n'y faites pas attention. Moi, quand j'écoute une prédication, je fais attention. Beaucoup de prédications s'adressent aux émotions et aux sentiments. Alors, ça plaît. Mais la parole de Dieu, elle doit être vivante et efficace. On va le lire dans Hébreux chapitre 4 et 12. La parole de Dieu, vous le croyez qu'elle est vivante? Bon, quand est-ce qu'elle est vivante? Quand est-ce qu'elle est efficace? Parce qu'on pourrait dire, mais quand même, ce chrétien, ça fait 15 ans qu'il est converti, il n'a fait aucun progrès. Vous me dites que la parole de Dieu, elle est vivante? Vous me dites que la parole de Dieu, elle est efficace? Et non, bien sûr que non. Elle est vivante, elle est efficace quand ce qu'on va lire est appliqué. Quand la prophétie que nous avons entendue, ce texte biblique, est appliqué. Hébreux chapitre 4, verset 12. Ce sont des choses vitales, il faut les expliquer avant de parler du pardon. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car, vous y êtes ? Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Ce n'est pas un bouquin, la parole de Dieu. C'est vraiment, c'est le pain de Dieu, le pain de vie. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager, regardez bien, âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je reviens. Jusqu'à partager âme et esprit. La parole de Dieu a ce pouvoir de séparer ce qui est de l'âme, c'est-à-dire ce qui est psychique, de ce qui est esprit, donc de ce qui est spirituel. Mais beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. La parole de Dieu, comment l'écoute-t-il ? Il y a des chrétiens, c'est impressionnant. Moi, je connais une jeune fille en ce moment qui est en train de faire une démarche avec Dieu. Il y a un mois qu'elle lit la parole de Dieu. Mais voyez, par exemple, sur le pardon, elle était l'autre jour dans un avion en train de lire un bouquin chrétien. Et elle a été convaincue de péché. Ça faisait 3 fois qu'elle venait et qu'il fallait qu'elle demande pardon à sa belle-mère parce qu'elle s'était disputée avec elle. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est rentrée chez elle, elle a pris le téléphone, elle lui a demandé pardon. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une fille qui est en train d'agir selon la volonté de Dieu. Elle n'est pas en train d'agir selon le sentiment. Pour peu qu'il y ait quelqu'un qui lui ait dit, mais tu sais, oui, tu sais, bon, ta belle-mère, ça n'a pas toujours été facile. Attends, tu verras bien. Si un jour elle est de bon poil. C'est comme ça que ça marche. Et le résultat, c'est que les gens n'obéissent plus à Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est efficace. Elle est capable, chez les gens qui ont un cœur droit, de séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Et le problème, il est là, c'est que les gens vivent tout d'une manière émotionnelle. Pour beaucoup de chrétiens, le pardon, c'est un sentiment. Ah, quand je serai mieux, quand j'irai mieux, quand j'aurai envie, vous voyez, quand je serai bien disposé. Le pardon, ce n'est pas une émotion, le pardon, ce n'est pas un sentiment. Le pardon, c'est une décision, c'est un acte de volonté. Je choisis de pardonner, je décide de pardonner. Tout à l'heure, on a chanté un bon cantique, même si on l'a chanté peut-être 5 minutes en retard. Je choisis d'être saint. Je choisis d'être saint. Voilà, c'est ça la vérité. C'est un choix. J'ai envie, j'aimerais bien être saint. Non, je choisis. Ça veut dire que ce que je vais faire, je vais le faire en sorte que c'est des choix que je fais. Je choisis d'aimer. L'amour, c'est un commandement. Celui qui m'aime, il garde mes commandements. Ah, mais moi, vous savez, on ne m'a pas appris à aimer. Voilà. Que de prétextes, ce qui prouve que les gens vivent leur vie d'une manière émotionnelle. C'est pour ça que les églises ne font pas de progrès, que beaucoup de chrétiens ne font pas de progrès. Ils sont incapables, beaucoup de chrétiens sont incapables de séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, allez vous réconcilier. Allez le voir et dites, je te demande pardon. Vous avez envie, vous n'avez pas envie, ce n'est pas important, vous le faites. C'est là qu'on reconnaît véritablement les enfants de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont dans la souffrance. Beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Vous savez, je ne sais pas vous, mais enfin quand même, quand on voit un couple de chrétiens divorcés, enfin je ne sais pas vous, quand on voit un couple de chrétiens divorcés, on ne va pas les juger. On ne les juge pas, on n'a pas à les juger. Mais vous avouerez que ça nous brise le cœur quand même. Vous comprenez ? Dans le monde, ça commence à s'expliquer, les gens sont dans les ténèbres, ils sont dans la haine, ils ne sont pas dans la vérité. C'est presque normal qu'un couple dans le monde divorce. Vous me suivez ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais dans le royaume de Dieu, on sait ce qu'on a à faire. On le sait. Un chrétien, quand il prend le baptême, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide d'accepter Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Il décide d'obéir à Dieu. Parce que le baptême, c'est « je choisis d'obéir à Dieu ». C'est ça le baptême. C'est pas « je viens à l'église, oh j'ai trouvé une bonne église, ça change de… » Non, c'est pas ça le baptême. Le baptême, c'est « j'ai décidé que Jésus-Christ était mon Seigneur ». Donc tout ce qu'il va me dire, je vais le faire. Et quand vous voyez des chrétiens qui ont 5 ans, 10 ans de conversion, et qui en sont à dire « ben oui, le pardon, d'accord, mais oui, j'attends d'aller mieux ». Vous savez, tous les gens qui m'ont dit « je prends du recul, j'attends d'aller mieux », ils ont tous abandonné Dieu. Parce que c'est une réaction sentimentale. Du recul, je veux dire, le culte, ça dure 2 heures par semaine. Vous pouvez prendre du recul ça, et venir au culte. C'est d'une idiotie pas possible. Et je crois que c'est la preuve que nous, les pasteurs, si les chrétiens ont été sentimentaux, c'est peut-être que les prédications étaient sentimentales. Ça peut se tenir. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais si nous sommes attachés à la volonté, nous verrons que nous ferons ce que Dieu nous demande. Combien sont dans l'amertume ? Peut-être que quelqu'un est dans l'amertume ce matin. On n'est pas là pour vous écraser, loin de là. Peut-être que vous êtes dans le ressentiment. Peut-être que vous êtes dans la haine. Est-ce que ça peut arriver, ces choses? Oui, ça peut arriver. Mais c'est une chose d'être dans le ressentiment pendant 2 jours. C'est une chose d'avoir de l'amertume pendant 1 mois. Ça en est une autre d'y être pendant des années. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que des fois, on prend des cours, on a besoin de se... Moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai eu de l'amertume pendant plusieurs mois et je sentais que ça allait me détruire. Donc, j'ai pris la décision d'aller demander pardon. Je vous assure, je l'ai fait, pas parce que ça m'a coûté, mais parce que je l'ai fait, parce que c'était vraiment compliqué, cette affaire. Bon, c'est pas la peine de revenir dessus, mais combien ont besoin d'apprendre à pardonner, de réapprendre à pardonner. Quand vous entendez une chrétienne qui dit « je hais mon mari », c'est triste, mais il faut le dire. Quand vous entendez une chrétienne qui vous dit « je hais mon mari, je ne le supporte plus, après tout le mal qu'il m'a fait », alors c'est délicat. Quand il y a de la souffrance, on ne peut pas se permettre de dire « oui, mais si tu avais obéi, ça va, c'est un peu plus compliqué que ça ». Mais on l'entend. Et vous savez très bien que si ça, ce n'est pas réglé, ça va finir par un divorce. Parce que dans tous les couples, il y a des choses qui peuvent nous contrarier. Est-ce que ça arrive? Est-ce que votre femme, mes frères, vous a contrarié? C'est la fête des pères, j'en profite. Est-ce que votre femme vous a déjà contrarié? Est-ce que ça peut arriver? Ben oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait, mes frères? Pas Brice, non, je ne vais pas vous poser des questions. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, on a pardonné. Beaucoup de chrétiens ont choisi de ne pas pardonner. Parce que le pardon, c'est un choix. Croyez-moi. Quand on a du ressentiment et qu'on dit, voilà, mais c'est normal, parce que j'ai souffert. Donc, vous savez, moi j'ai lu cette semaine encore le témoignage de Corrie Ten Boom. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme. Cette femme, qui était juive, son père est mort dans un camp de concentration, son frère est mort dans un camp de concentration, son neveu est mort dans un camp de concentration. Enfin, toute sa famille a été plus ou moins torturée, tuée dans un camp de concentration. Et après la guerre, elle a écrit un courrier à l'homme qui les avait fait arrêter, sa famille. Et elle lui a dit, je tiens à vous pardonner pour tout le mal que vous m'avez fait. Et je tiens à vous dire combien je vous pardonne. Cet homme a écrit à sa femme, avec qui bien sûr il était divorcé. Il dit, voilà, je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Je sais que c'est pas facile, mais Dieu t'aidera. Cet homme s'est converti. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Cette femme, elle a pardonné, parce qu'elle a choisi de pardonner. Et les exemples extraordinaires sont légion. Merci Seigneur. Ce qui nous prouve que c'est une décision de pardonner. Et moi, quand j'entends un chrétien qui me dit « Oh, j'attends, on verra bien, ne me prenez pas la tête, je sais ce que j'ai à faire, écoutez, je n'ai pas besoin d'un pasteur. » Voilà, mais on ne dit plus rien, on n'est pas là pour... On est des pasteurs, on n'est pas des gourous. Ça s'arrête au conseil, nous. Mais on sait. Et c'est ce que je dis souvent aux sagères, je dis « Tu vois, cette personne, elle va rétrograder. » « Et comment vous le savez, monsieur Go ?» Et je dis « Je le sais. » Ça fait mal au cœur parce que c'est comme une plante qu'on n'arrose plus. Vous savez que la plante, elle va crever, elle va sécher. C'est normal, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un prophète. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste, d'avoir un discernement. Pas possible. C'est une question de loi. Oui, quand on croit qu'on a le droit de ne pas pardonner parce que quelqu'un nous a fait du mal. Je peux vous dire qu'on n'est pas dans les griffes, dans les mains du Seigneur, mais plus dans les griffes du diable, croyez-moi. Et comme on a décidé de ne pas pardonner, on doit dire, mais maintenant, je vais décider de pardonner. C'est un choix. Je veux pardonner. Parce que Jésus me demande de pardonner comme lui nous a pardonné. Et nous ne nous rendons pas compte que sur le bois de la croix, la première des 7 paroles que Jésus a prononcées, après ce qu'il venait de vivre depuis 24 heures, enfin depuis 3 heures et demie, m'a mérité, mais depuis 24 heures, quand on voit ce que Jésus venait de vivre, de subir, d'accepter, et on le crucifie, et la première parole qu'il prononce, n'oubliez pas qu'il est Dieu incarné, la première parole qu'il prononce, on n'y a pas marché sur les pieds, ce qu'on vient de lui faire, la première parole est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». J'essaie de m'imaginer si le Seigneur Jésus avait dit autre chose que ça. Parce que nous, on est tellement habitués à l'amour, à la tendresse, à la bonté du Seigneur, qu'on ne se rend pas compte s'il avait pris la décision de retrouver sa position de Dieu à ce moment-là. Je peux vous dire que ça aurait fait du ménage à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il dit alors qu'il est en train d'agoniser pendant des heures? Père, pardonne-leur. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et les apôtres, quand ils nous enseignent à vivre dans le pardon, ils disent « Comme Christ vous a pardonné, pardonnez. Dieu vous aidera. Le problème, c'est que les gens sont tellement sentimentaux. Ils n'ont jamais expérimenté. Ça fait qu'ils ne croient même pas que Dieu est capable de leur faire faire une expérience. Est-ce qu'on peut faire une expérience à ce niveau-là? Mais bien sûr, et nous ne devons pas dire, oh, je me souviens, j'avais eu un problème assez difficile. Et il y a un pasteur qui m'a dit, j'espère que tu auras le courage de demander pardon.
Je dis, j'ai pas besoin de courage. Il n'y a pas besoin de courage.
Franchement, si Dieu nous demande quelque chose, on peut le faire.
Bon, je demandais pardon. Je dis, mais j'ai pas besoin de courage, j'ai besoin d'obéissance. Il faut le faire.
Vous voyez, on est dans une espèce de mentalité. Non, ce n'est pas un exploit de demander pardon. C'est une grâce que d'obéir à Dieu. Et on va prendre le pain et le vin. Moi, je voudrais que tous, ici, nous puissions dire « Oui, je sais ce que j'ai à faire. Je vais arrêter de vivre d'une manière sentimentale. Je vais arrêter d'écouter la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique. Je vais prolonger mes regards dans la loi parfaite et je vais me décider à faire ce que Dieu me demande. Car ce que Dieu me demande, je peux le faire. » On ne peut pas contrôler ses émotions. Les émotions, c'est... Les gens, bon... On en a des émotions, on a des sentiments. Il y a des gens qui vivent que dans ça. Ça fait que, alors une fois ils sont en haut, c'est extraordinaire. Une fois ils sont en bas, c'est déprimant. Les gens qui sont dominés par leurs émotions et par leurs sentiments sont tout le temps déséquilibrés. Mais les gens qui sont dominés par la volonté, ce sont des gens qui sont stables et qui font de sérieux progrès, même s'il y a bien sûr des hauts et des bas. Mais mes frères et sœurs, c'est un choix d'obéir. C'est un choix de pardonner. Jésus, quelqu'un l'a dit dans sa prière, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et quand on est en conflit, ça peut arriver. Ne me dites pas, oh, c'est pas normal qu'il y ait un conflit. C'est normal qu'il y ait des conflits. Mais ces conflits, on peut de suite les régler. Il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas. Moi, ça me brise le cœur. Je vous le dis franchement. Ça me brise le cœur parce que je sais comment ça va se terminer. N'attendez pas de sentir quelque chose. N'attendons pas de sentir quelque chose pour pardonner. Décidons-nous à le faire. Et que vous sachiez, quand vous allez dans une autre église, comme ça, quand vous êtes en vacances, sachez discerner si la prédication s'adresse à la volonté ou si la prédication s'adresse au sentiment. Car une prédication qui s'adresse au sentiment ne vous fera faire aucun progrès. Alors qu'une prédication qui s'adresse à la volonté vous permettra vraiment d'être en bénédiction. Oui, je pardonne. Je décide de pardonner. Alors, je pardonne, mais il y a encore un peu de ressentiment. Est-ce que ça peut arriver, ça? J'ai pardonné, j'ai demandé pardon, et j'ai encore un peu de ressentiment. Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Eh bien, priez. Bénissez la personne. Parce que ça peut arriver. Et le diable, il va essayer de vous torturer. Quand vous avez pardonné, vous devez lui dire, j'ai pardonné. Moi, par rapport à une situation que j'ai vécue, mais j'en parle parce que quand même c'est un sujet qui est important, je me rappelle, de temps en temps, tu vois, tu y repenses, tu n'as pas pardonné. Vous savez, parce qu'il y a des bouquins qui vous disent, si vous avez pardonné, vous avez oublié. Mais ce n'est pas vrai, ça. Que je sache, Dieu nous a donné un cerveau et une mémoire. Donc, non mais, c'est pas intelligent, ça. Parce que, vous voyez, le diable va s'en servir pour essayer de nous faire croire qu'on n'a pas pardonné. Mais on n'a pas oublié. Si je me dispute avec, admettons, le meneur de champ, tout à l'heure, imaginons, quand je vais le revoir, vous voyez, je vais y repenser. Mais, là, est-ce que je vais l'oublier? Non, je ne vais pas oublier qu'il arrive en retard. Mais, ça ne me fera pas de mal. Vous voyez, ça ne me fera pas de mal. Quand on a pardonné, ça ne doit plus nous faire du mal. Après, on peut y repenser, c'est pas parce qu'on y repense que... Ne jouons pas les TTS, les très 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 spirituels, s'il vous plaît. Par contre, s'il y a du ressentiment, parce que quand même notre cœur a été affecté, parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'on a souffert, Seigneur, bénis cette personne. Je te prie pour cette personne. Continue à la bénir. Et vous verrez que quand on prie pour quelqu'un, quand on bénit pour quelqu'un, on aime la personne. C'est ça, je vous mets au défi de prier pour une personne avec qui vous avez des difficultés, de la bénir tous les jours, et bien vous finirez par l'aimer. C'est pas vrai? Et ça, c'est des choses qu'on doit réapprendre. Il y a des gens, non, celui-là, je ne veux plus avoir affaire avec lui. Celui-là, moi, j'ai entendu un chrétien dire, je le maudis. Et vous savez, quand vous savez que la loi de la semence est une loi spirituelle, ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. On en a parlé Mardi, ça fait partie de la vocation. Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Et moi, je vous promets que si vous bénissez l'œuvre de Dieu, si vous bénissez le corps de Christ, la ville, les autorités, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les programmes, etc. Mais on doit, c'est écrit avant toute chose, de prier pour les autorités. C'est, je veux bénir le président de la République, je veux bénir le Premier ministre, je veux bénir le gouvernement, dans le sens où on demande la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on demande qu'il soit plus riche financièrement. Oui, mais il y a des chrétiens qui le comprennent comme ça. Seigneur, je te prie, bénis ce gouvernement. Vous bénissez, vous hériterez la bénédiction. Quand vous entendez les chrétiens, « Oh, ce chef d'État, c'est un imbécile, qu'il aille se faire avoir, etc. » Ne vous attendez pas à obtenir la bénédiction. Donc, s'il y a des difficultés, des contrariétés, bénissez. On a parlé mardi, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. On a parlé de la volonté qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pourquoi il y a peu d'appelés? Pourquoi il y a peu d'élus? Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui répondent vraiment à l'appel. Donc faites ce que le Seigneur vous demande. C'est important. Plus vous bénissez les personnes, plus vous l'aimerez. Et si vous n'aimez pas quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Parce que je crois que Dieu peut nous donner son amour. Est-ce que Dieu peut nous donner l'amour de nos ennemis? Est-ce que c'est écrit « aimez vos ennemis » Est-ce que c'est possible d'aimer ses ennemis, humainement? Non. Mais quand on entend une parole comme ça, on dit « Mais Seigneur, ton amour me permettra d'aimer. » Et quand que je commence à bénir, « Seigneur, je bénis telle personne, eh bien voilà, je me mets à l'aimer. » Et la loi de la semence va se mettre en pratique. Si vous maudissez, vous serez maudit. Il faut le dire, c'est pas la peine de prendre trois heures pour vous l'expliquer. Si vous maudissez, vous serez maudit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Quand vous maudissez, vous êtes maudit. Et si vous avez l'habitude de dire, mais celui-là, il va mal, je l'attends au tournant, et celui-là, je ne peux pas le saquer, eh bien, vous serez maudit. Écoutez, mais ce n'est pas moi qui vous le dis. C'est la parole de Dieu. Par contre, si vous bénissez, vous serez béni. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et voilà, il ne voit pas arriver la chaleur. Voilà, si vous bénissez, c'est vrai, tu vois, c'est, Seigneur, je bénis l'Église. Moi, dernièrement, j'ai repris une personne qui maudissait une église. J'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte le malheur qui va arriver sur vous. Que vous ne soyez pas d'accord avec une église, moi, je veux bien. Mais de maudire une église, c'est le corps de Christ, l'Église. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il faut, il faut veiller à ces paroles. Quand je disais mardi, mais considérez quelle est la volonté du Seigneur. C'est réfléchissez, ça pourrait être traduit par réfléchissez à ce qu'est la volonté de Dieu, afin que nous ne nous perdions pas dans toutes ces erreurs. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. N'attendez pas d'avoir de bons sentiments. Ce matin, avant de prendre le pain et le vin, s'il y a quelque chose, pardonnez. Si quelqu'un est aux Antilles, eh bien, écrivez-lui en Afrique. Voilà, je te demande pardon pour ce qui s'est passé entre nous. Je te demande pardon. Faites-le et Dieu vous bénira. N'attendez pas ceci, n'attendez pas cela. Oui, on va lire dans Colossiens au chapitre 3. Parce que c'est important de revenir. Comment pardonnons-nous? Comment devons-nous pardonner? Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, verset 12. C'est important que vous, avec moi, nous réalisions comment il faut pardonner. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Je ferai remarquer qu'il y a le mot élu, parce qu'on en a parlé mardi. L'élection, ce n'est pas comme un catholique, comme un protestant, comme un croyant. Les élus, ce sont des gens vraiment qui ont répondu à l'appel. Ce sont des gens qui se sont appliqués à obéir à Dieu. Je peux vous dire qu'il y a une grande différence entre l'élu et le croyant, de nom. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté. Alors, de sentiments, ça n'a rien à voir avec ce que je disais tout à l'heure, de sentimentalité. C'est des sentiments, c'est des pensées, pensées chrétiennes. De compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, est-ce que ça peut arriver, ça? Ben oui. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous sommes appelés à pardonner. Ça fait partie de notre vie chrétienne. Nous devons vivre continuellement dans le pardon. Est-ce que vous comprenez? J'ai quelquefois utilisé ce texte où le Seigneur Jésus est en train de parler de bénédiction dans l'Église, d'ordre dans l'Église, de discipline dans l'Église. Vous connaissez Matthieu 18 quand il dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Car si là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Vous vous rappelez ce texte? Ça, c'est le contexte qui nous montre que dans une Église, il doit y avoir de l'ordre et de la discipline.
Et Pierre, qui est quand même un homme de Dieu, il a compris. Il a compris. Et il pose la question, Seigneur, parce qu'on pourrait dire, quelqu'un pourrait dire, mais ce n'est pas à propos. Mais croyez-moi, c'est à propos. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Alors comme la religion officielle avait déterminé que cette fois, c'était bien, cette fois, la même personne, bon, dans la journée, ça commence à faire, bon, ça suffit. Cette fois, une fois, allez, bon. Ils avaient déterminé. Et Jésus dit, mais tu veux un chiffre? Je vais t'en donner un. Ça ne sera pas cette fois, mais 70 fois, 7 fois. 490 fois par jour. Si vous dormez 8 heures par jour, ça fait 2 fois par minute. Vous avez compris? Le pardon est conditionnel. Inconditionnel. C'est-à-dire que vous devez toujours pardonner. Vous connaissez la parabole que Jésus ajoute? Vous connaissez la parabole? Cet homme qui s'en va à la rencontre de quelqu'un. Oh, il tombe sur un gars, il lui doit 32 millions d'euros. Je transpose, c'est plus facile. Ça commence à faire une grosse somme. Et il le supplie, oh, je t'en supplie, remets-moi ma dette, je te paierai tout. Bon, je te paierai tout. Et qu'est-ce que fait le gars? Il lui pardonne tout. Je te remets ta dette, tu m'as supplié, je t'en remets. L'autre, il s'en va, il rencontre dans la rue, un petit peu plus loin, un gars qui lui doit une somme d'argent ridicule. Une année de travail, même pas. Je crois que c'est combien? C'est, je ne sais plus, 7 deniers, enfin bon, quelques jours de travail. Et il refuse de le pardonner. En plus, le gars, il utilise les mêmes paroles que lui. Je t'en supplie. En plus, lui pouvait rembourser la dette, tandis que l'autre, il ne pouvait pas. Et qu'est-ce qu'il le fait? Il le livre au bourreau, il le fait mettre en prison. Et quand le maître entend ça, il lui dit, mais on va lire la conclusion, on va la lire. Parce que quand même, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas M. Hugo qui a inventé une histoire. C'est dans Matthieu 18. Et regardez cette histoire. Cette histoire, elle devrait faire... Bon, mais c'est pour ça que si quelqu'un écoute la parole de Dieu avec un cœur vrai, je peux vous dire qu'il va se mettre à pardonner. Parce que quelqu'un qui ne pardonne pas, non seulement il ne sait pas où il en est de sa communion avec Dieu, mais quelqu'un qui ne pardonne pas, regardez la conclusion, Matthieu 18, si je ne me trompe pas. Voilà, Matthieu 18. Voilà, on va lire la conclusion. Matthieu 18, verset 33. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Regardez la conclusion. C'est une parole de Jésus, pleine d'amour. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère du bout des lèvres. Ah, pardon. Je regarde si vous suivez. Vous suivez, Brice? C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Mes frères et sœurs, quand vous ne pardonnez pas, alors que cette histoire, elle est là, parce que l'histoire, ce n'est pas une histoire. C'est une histoire pour nous montrer que le pardon que le Seigneur nous a donné, on n'aurait jamais pu le régler. Qui pourrait payer le salut? Personne. C'est pour ça que la Bible nous dit que le sang de Jésus est précieux. Parce qu'il a beaucoup, beaucoup de prix et que personne ne peut payer son salut. Comme cet homme n'aurait pas pu payer, en plus à l'époque, 32 millions d'euros, ce n'était pas possible. Et le gars qui refuse de pardonner, c'est la preuve que c'est un gars qui n'a, en vérité, il n'a rien compris au pardon qu'il a obtenu. Parce que si vous avez compris le prix que Jésus a payé sur le bois de la croix, il ne vous est pas possible de ne pas pardonner. Et si vous ne pardonnez pas, c'est parce que vous n'avez pas compris ce qu'était le pardon de Dieu, c'est que vous marchez selon vos émotions et vos sentiments à la place de marcher selon la volonté de Dieu. C'est ainsi que notre Père nous traitera si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur. Et c'est un acte de volonté. Voilà, la personne m'a fait telle crasse, ça ne m'a pas plu, je pardonne. Je décide de la pardonner. Et quand on dit ça devant Dieu, on l'a dit, c'est fait. Alors, un autre problème se soulève, c'est le problème, dans Matthieu justement au chapitre 5, il y a le problème de la personne qui a quelque chose contre nous. Est-ce que ça peut arriver ça? Que quelqu'un ait quelque chose contre nous. Alors ça c'est un problème assez délicat, et il faut en parler. Il faut en parler. Matthieu chapitre 5, verset 23. C'est un verset moi qui m'a fait beaucoup réfléchir et que j'ai mal interprété. Je vais vous l'expliquer, il y a des années. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes, parce que la tête a des souvenirs, hein,
et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est un problème très délicat. En plus, je ne suis pas sûr que ça soit très, 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 très bien traduit. J'ai lu dans une traduction, hier, dans une autre traduction, si tu te souviens que ton frère a un grief contre toi. Il faut que vous compreniez bien. C'est très, très important. Si vous ne le comprenez pas, le diable, il vous aura. Ça peut arriver que nous ayons un problème, que nous ayons vraiment commis quelque chose de mauvais et que notre frère a quelque chose contre nous. Ce n'est pas la même chose que quand on dit la vérité à quelqu'un et que la personne nous en veut. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, je prends un exemple. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va dire à Hérode ou à Hérodias, il ne t'est pas permis d'avoir cette Hérodias pour femme. Et cette femme, croyez-moi quand on connaît la suite, était furieuse contre Jean-Baptiste. Il lui avait dit la vérité. Elle avait quelque chose contre Jean-Baptiste. Vous êtes d'accord? La preuve, vous savez ce qui lui est arrivé. La haine que cette femme pouvait avoir. Parce que pour en arriver là, je pense qu'il faut être malade. Vous voyez comme quoi la haine peut rendre les gens malades. Jean-Baptiste ne lui a pas envoyé un courrier 3 jours après. « Ah, écoute, Hérodias, je te prie de me pardonner. Je sais que tu as quelque chose contre moi. Justement, j'ai entendu il y a 3 jours Jésus qui disait... parce que ça s'est passé juste après. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, va et réconcilie-toi. » Non, c'est Jean-Baptiste avait dit la vérité, il n'avait pas à aller s'excuser. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand Jésus traitait les pharisiens, les pasteurs de l'époque, d'hypocrites, il a envoyé pas un mail 3 jours après, « Écoutez, je m'excuse, je vous ai traité d'hypocrite. » Et moi, je l'ai fait, ça. Quand je devais reprendre un chrétien, il y a 25 ans en arrière, quand je reprenais un chrétien, je le reprenais parce qu'il fallait le reprendre, et le lendemain, je disais, il a de la peine et tout. Moi, je prenais ce verset et j'allais voir le chrétien. J'ai dit, écoutez, je viens vous demander pardon pour la façon dont je vous l'ai dit. Peut-être je vous l'aurais dit, j'aurais pu vous le dire mieux que ça. Et la personne, après, très, 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 très heureuse, allait dire, voyez, monsieur Gou, il est venu me demander pardon. C'est lui qui avait tort. Ça s'est passé presque chaque fois. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Ça vous montre, alors que moi, j'allais juste dire à la personne, écoutez, je vous l'ai peut-être mal dit. Je voulais peut-être dit d'une façon maladroite, etc. Ça peut arriver qu'on peut le dire. On peut le dire mal. Par me dire de l'estrade quelque chose à un meneur de chant, c'est très maladroit. Hein? Mais vous êtes d'accord qu'on peut être maladroit. Ouais, vous êtes d'accord. Mais voyez, si tu te souviens que ton frère a un grief contre toi, c'est-à-dire que tu as vraiment commis une faute, et que tu ne l'as pas réparé. Ça peut arriver, ça. Mais voyez, ça n'a rien à voir. Si vous avez dit la vérité, si vous avez dit quelque chose, parce qu'il y a des gens qui ont de la vérité, mais si vous avez dit quelque chose à une personne, comme quand j'ai dit moi à cette personne, vous allez avoir des problèmes de maudire l'Église. J'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous allez avoir des problèmes si vous maudissez l'Église. Elle a été voir un des jeunes pasteurs, elle dit, oh, monsieur Gou, il est méchant. Bon. Non, mais c'est pour vous dire, voyez, alors que moi, je ne vais pas aller m'excuser. Est-ce que j'ai bien fait de lui dire? Vous voyez, mais je sais que la personne m'en veut. Mais vous voyez, il faut faire. Mais c'est très important parce que le diable, vous savez, le diable, il fera tout pour qu'on soit dans l'ignorance. Ce sont des choses basiques et ce sont des choses qu'il faut absolument expliquer parce que le pardon, je suis désolé, mais ça fait partie de la vie de tous les jours. Tous les jours, on a besoin d'être pardonné. Vous ne demandez pas pardon, Seigneur, souvent? Franchement, vous ne demandez pas au Seigneur, je demande pardon, j'ai eu de mauvaises pensées, je demande pardon, Seigneur, j'ai mal réagi avec mon épouse, avec mes enfants. On n'a pas besoin de demander pardon, on est tout le temps en train de demander pardon. Le Notre Père, c'est un enseignement qui nous prouve qu'on a continuellement besoin de demander pardon. Ne vous affligez pas parce que vous avez besoin de demander pardon. Affligez-vous parce que vous ne demandez pas pardon. Affligez-vous parce que vous faites n'importe quoi. Et parce que si vous avez été brutal avec quelqu'un, et si vous avez eu tort, si la personne a quelque chose contre vous et que ce soit justifié, oui, allez la voir et demandez-lui pardon. Après, il y a les cas compliqués. Il y a les cas, un exemple. On pourrait prendre un exemple très proche. On va prendre un exemple. Monsieur A traite Monsieur B d'imbécile. C'est pas vrai, c'est pas un imbécile. Mais Monsieur A traite Monsieur B d'imbécile. Monsieur B, vexé, met une gifle à Monsieur A. Qui c'est qui a tort? Non mais, parce qu'attention, on a le problème des relations. On peut avoir tort quand on dit quelque chose, mais la personne en face peut réagir d'une telle et telle façon qu'elle a plus tort que la première. Et je peux vous dire que moi, dans les problèmes de foyer, quand on écoute un, c'est sûr que, comme dit la Bible, le premier qui parle, dans sa cause paraît juste. Puis vient la partie adverse et on examine. Et je me suis rendu compte, c'est arrivé très souvent, qu'une personne se soit mal comportée, mais que la personne en face ait réagi 10 fois plus mal. Donc en vérité, tous les deux avaient besoin de se demander pardon. C'est pour ça qu'il vaut mieux apprendre à savoir se taire. Mais je crois quand même que si nous avons accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en nous. Et que le Saint-Esprit, dans un moment de communion, saura nous montrer ce qu'il y a lieu de faire. Et moi, je vous assure, j'allais, mais tous les gens que je reprenais, je l'ai fait longtemps. J'allais leur demander pardon. Et une fois, le Saint-Esprit m'a repris, par rapport à ces textes, justement, où quand Jésus traitait les pharisiens de fils du diable, il n'allait pas s'excuser. Parce qu'ils avaient besoin d'entendre ça. Et je crois qu'il nous faut demander à Dieu cette grâce, que quand on parle, eh bien, on communique des paroles de grâce. Même si ce sont des paroles, parfois, qui peuvent être difficiles. Mes frères et sœurs, le pardon, c'est quelque chose d'important. Vous savez, des fois, les chrétiens demandent une délivrance. Ça arrive, ça. Des fois, on entend des chrétiens, « Oh, j'ai besoin d'une délivrance. Priez pour moi, j'ai besoin d'une délivrance. » Mais quand on discute, ils n'ont pas besoin de délivrance. Ils ont besoin d'apprendre à pardonner. Et là, peut-être que plusieurs se sentent interpellés. J'ai observé ça souvent chez nos frères et sœurs africains. C'est pas un reproche, c'est pas du tout un reproche. C'est que souvent, on oriente les problèmes d'une mauvaise façon. Je crois que Dieu délivre. Je crois que Dieu délivre. Je crois que pendant la Sainte Cène, Dieu peut guérir les gens. Il envoya sa parole et il les guérit. Moi, je crois que la parole de Dieu a le pouvoir de nous guérir. Mais ne cherchez pas une délivrance sur l'amertume, sur du ressentiment. Moi, j'ai vu des gens, je me rappelle de ce gars, il a été 2 fois à Paris voir un super évangéliste et pour être délivré du démon de la colère. Et je lui dis, t'as dépensé tout cet argent pour... Oui, je le démon de la colère. Je lui dis, mais t'as pas le démon de la colère. La colère, c'est pas un démon. La colère, c'est charnel. Écoute, est-ce que c'est écrit? Écoutez, ça fait mal au cœur un chrétien qui a 20 ans de conversion. Je lui dis, mais quand même, tu n'es pas sérieux. Et je lui ai lu le texte, on va le lire, parce que peut-être pour quelqu'un ce matin, c'est peut-être sérieux, dans Colossiens, mais c'est grave, vous voyez. Et c'est une personne qui avait besoin de pardonner. Elle était en conflit avec son père, elle était en conflit avec plusieurs personnes, et elle avait besoin de pardon. Et de pardonner surtout. Vous voyez, quand il est dit, ce qui est terrestre, c'est terrestre, c'est pas spirituel. Comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses dans nos membres qui sont humains, qui sont charnels, qui sont terrestres. Ce n'est pas diabolique. Vous le comprenez, ça, qu'il y a ce qui est charnel, psychique, spirituel, etc. Et Paul, quand il écrit aux Colossiens, qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Donc, écoutez, ça ne peut pas être plus clair. Colossiens chapitre 3, verset 5. Ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Dieu nous demande de faire agir notre volonté par nos émotions. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, etc., etc. Renoncer à ces choses, ça veut dire, je décide de ne plus me laisser livrer à la colère, j'ai pas besoin de délivrance, j'ai besoin peut-être de pardon. Parce que dans un foyer qui ne se pardonne plus, ça va finir comment? Mais qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Il va y avoir de ces disputes, pas possible. Mais c'est inévitable, on peut prier tant qu'on veut, on peut jeûner tant qu'on veut. Vous voyez, il y a déjà, moi je me souviens de cette femme, une femme qui était chrétienne, elle venait de temps en temps me voir à Groyer. Elle venait me voir régulièrement. Elle me dit, voilà, priez pour mon mari, il est inconverti. Enfin, elle parlait de lui. Franchement, heureusement qu'il n'était pas là. Elle parlait de lui. Bon, j'ai dit, mais je prierai pour vous. Et puis, au bout de 3-4 fois, j'ai dit, mais comment vous vous comportez avec votre mari? Elle me parle de la façon dont elle se comporte avec lui. Elle me dit, mais moi, je suis chrétienne. Donc, si je suis chrétienne, c'est qu'il a tort. Monsieur, les chrétiens sont plus spirituels que les inconvertis. Mais j'ai dit, attendez, c'est pas parce que votre mari il est inconverti qu'il est bête. Non, mais il y a des chrétiens qui s'imaginent que parce qu'ils sont chrétiens, ils sont plus intelligents que les païens. Laissez-moi vous dire qu'il y a des païens qui sont plus intelligents que nous, qui ont plus de bon sens que nous, qui ont plus de piété naturelle que nous. J'ai dit, mais c'est pas parce que votre mari est inconverti que c'est un imbécile. Et quand elle m'a raconté, alors ça faisait des années, alors ils envisageaient, elle jeûnait, alors elle venait à grouiller parce qu'elle avait une amie, elle passait 3-4 jours à jeûner et à prier. J'ai dit, mais il faut arrêter de jeûner maintenant. Il faut aller voir votre mari et vous allez lui demander pardon pour votre attitude. Mais monsieur Gou, c'est lui qui est païen. Moi, je suis chrétien. J'ai dit, écoutez, vous voulez que... Bon, parce que je vous résume l'entretien. Mais c'est ce qui s'est passé. Elle est rentrée chez elle, elle m'a appelé 3-4 jours après, elle m'a dit, monsieur Gou, mon foyer, il est délivré. J'ai demandé pardon à mon mari. J'ai réfléchi et j'ai compris, oui, que j'étais idiote de penser que parce que j'étais chrétienne, j'étais meilleure que mon mari. Et cet homme, bien sûr, ce foyer a été restauré, ce foyer a été guéri, tout simplement parce que cette chrétienne a demandé pardon à son mari. Et ce n'est pas parce que notre mari n'est pas encore converti qu'il ne faut pas lui demander pardon. Ce n'est pas parce que notre femme n'est pas encore convertie qu'il ne faut pas lui demander pardon. Ce sont des choses, vous voyez, on est là, il faut de la délivrance. Oui, il y a des gens qui sont liés par la puissance des ténèbres. Ils ont fait du spiritisme, ils ont trafiqué avec les puissances des ténèbres. Mais c'est clair qu'ils ont besoin d'une délivrance. Mais si vous n'avez pas trafiqué, si vous n'avez pas fait de spiritisme, si vous n'avez pas donné votre cœur au diable, ce n'est pas un problème de délivrance, c'est un problème d'obéissance à la parole de Dieu. Et je crois que si on prenait le temps, là bon on n'a pas le temps parce que l'heure tourne, si on prenait le temps de réfléchir à la volonté et à le faire de tout son cœur, bon revenons à Matthieu 5, vous voyez je termine, mais dans Matthieu 5, Jésus redit la même chose quand il dit, voilà, si ton frère a quelque chose contre toi, voyez, qu'est-ce qu'il dit? Que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande et va d'abord te réconcilier, puis viens te présenter ton offrande. On voit bien que Dieu veut qu'on fasse les choses de tout notre cœur. C'est ça que Dieu attend. On va prendre la Sainte Cène. Oh Seigneur, je le fais de tout mon cœur. Oui, j'irai demander pardon à mon mari. Oui, j'irai demander pardon à ma femme pour tout ce que j'ai dit. Mes frères et sœurs, la délivrance, elle est là souvent. Quand on obéit à la parole de Dieu, c'est important. Si tu présentes ton offrande à l'autel, on va présenter notre offrande. Est-ce qu'on est heureux de pouvoir donner notre offrande au Seigneur? Est-ce que c'est une bénédiction pour vous de donner votre dîme, de donner votre offrande? Est-ce que c'est une bénédiction? Mais voyez, le Seigneur, il met cette communion spirituelle avec les frères, avec les sœurs, au-delà. C'est beau de pouvoir donner sa dîme. C'est une grâce de travailler à l'avancement du royaume de Dieu. Mais il y a quelque chose de plus épanouissant encore. C'est de dire, oh, je ne veux rien entre mon frère et moi. Oui, j'ai dit du mal d'un tel. Eh bien, je vais demander pardon. Si vous avez critiqué quelqu'un, mais par exemple, si vous avez pensé du mal de lui, voilà, vous avez, oh, c'est Monsieur Dupont, il est bête. N'allez pas le voir s'il ne le sait pas. Dites-le à Dieu quand même. Mais dites-le à Dieu. Parce que des fois, ça aggrave les problèmes d'aller voir quelqu'un. Tu sais, j'ai pensé du mal contre toi. Ça fait un an que je pense du mal contre toi. J'ai pensé que vraiment tu étais bête, tu sais. Bon, moi, je vous encourage à ne pas lui en parler. Mais vraiment de tout votre cœur à dire pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon d'avoir critiqué le frère. Parce que souvent, les gens veulent le faire tellement bien faire qu'à la place de régler un problème, ils en créent plusieurs. Alors, si c'est entre vous et Dieu, réglez-le avec le Seigneur. Faites-le consciencieusement. Oui, Seigneur, j'ai parlé mal de monsieur untel. Je te demande vraiment pardon. Et Dieu vous pardonnera. Mais faites-le de tout votre cœur. Ne le faites pas du bout des lèvres parce que ça a été prêché tel dimanche à l'église. Faites-le de tout votre cœur parce que Jésus est catégorique. Si tu le fais de tout ton cœur, le Seigneur te pardonnera. Vous comprenez pourquoi je voulais comprendre la Sainte-Cène maintenant, mes frères et sœurs, d'être vraiment dans un bon état d'esprit. C'est important. C'est important. Mes frères et sœurs, Dieu veut nous bénir. C'est important le pardon dans une église. Vous savez, on doit vivre dans le pardon. J'ai fait allusion à Brice, qui est arrivé en retard. Il a bien compris, je pense, qu'il était pardonné. Mais ce sont des choses comme ça. Ce sont des petites choses comme ça, qui peuvent ne pas être réglées. Vous voyez, j'en parle librement parce que Brice me connaît très bien. S'il ne me connaissait pas, je n'aurais pas eu cette liberté de le faire. Mais c'est un exemple, après tout, c'est bien. Moi, mais je préfère ça plutôt qu'il ait eu un accident sur la route. Par contre, est-ce que vous avez conduit vite pour venir? Mais ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Parce que ça aurait pu être grave. Vous voyez, mais c'est important que l'on s'aime et qu'on vive dans le pardon. Si on ne pardonne pas, notre vie spirituelle n'a aucune valeur. Alors on va prendre le pain et le vin. Monsieur de Dieu, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre quelques frères? Mon Dieu, j'aimerais que vous preniez le pain et le vin en disant, voilà, j'ai compris ça. Oh, je vais le faire. J'ai critiqué un tel. De tout mon cœur, je vais le faire. Voilà, on va prendre le pain et le vin. Je voudrais que, mais que ça soit une joie, une victoire, une délivrance, une guérison. Que dire, oui, j'ai parlé mal de ma belle-mère, mais à qui j'en ai parlé? À telle personne, mais je vais aller lui demander pardon. Et faites-le, et vous verrez combien Dieu vous bénira. Il envoya sa parole et les guérit. Recueillons-nous quelques instants. Ne prenez pas le pain et le vin, voilà, par habitude, par routine, en disant, oh, c'est merveilleux, Jésus est mort pour moi. Non, Seigneur. Merci pour ta parole. Oui, j'ai mal parlé. Avant de prendre le pain et le vin, eh bien, je mets tout à tes pieds. Et j'irai voir un tel, j'irai voir un frère, j'irai voir telle sœur. Mais oui, je me suis attrapé avec elle et j'ai eu tort. Alors, levez-vous, frères et sœurs, vous qui allez prendre le pain et le vin. Mais levez-vous, mais réalisez la grâce. Comme une sœur le disait tout à l'heure dans sa prière, mais la grâce d'être ici, la grâce d'être dans sa maison, la grâce de pouvoir prendre le pain et le vin, est-ce que ce n'est pas une bénédiction? Alors, si vous êtes baptisé, si vous êtes en paix avec Dieu, levez-vous. Mais si vous ne l'êtes pas, prenez la décision de régler cette affaire. Ou entre vous et Dieu, ou entre vous et la personne. Mais faites-le. Et Dieu vous guérira. Dieu vous délivrera. Je n'ai pas eu le temps de donner des témoignages, mais combien de témoignages on peut donner de personnes qui ont été guéries physiquement parce qu'elles ont pardonné. Les témoignages sont innombrables. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons rester dans le silence, dans le recueillement, en train de parler à notre Seigneur. Nous pouvons prier à haute voix courtement. Voilà, que tout se déroule dans l'ordre et la bienséance.